51,55$, soit un repli de 60 cents. Voilà Agnès, je vous rappelle que le CAC 40 progresse de 0,96% à 3818 points. La Bourse de Paris pour France Inter, Cédric Decoeur.
Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros les minutes. 3230, France Inter au bout du fil.
Les résultats de la première course de Fontainebleau, premier le 2, 4,40€ en euros 80 et deuxième le 3, 1,30€. Il est 14h03 sur France Inter. Tout de suite, c'est 2000 ans d'histoire avec vous, Patrice Gélinet. Bonjour.
Bonjour Agnès et bonjour à tous. Il y a 50 ans aujourd'hui, une des plus grandes énigmes de l'histoire judiciaire, l'affaire Dominici.
Gaston Dominici, vous êtes inculpé de triple meurtre. On va vous raccompagner à la prison de Digne.
Je suis innocent! Innocent, vous entendez?
2000 ans d'histoire. Tout a commencé au bord de la Durance par 7 coups de feu tirés à 1h10 du matin dans la nuit du 4 au 5 août 1952. 4 heures plus tard, dans la commune de Lurs, dans les Alpes de Haute-Provence, on trouvait les cadavres de 3 Anglais en vacances en France, Sir Jack Drummond, sa femme Anne et leur fille de 10 ans, Elisabeth, dont le crâne avait été fracassé par la crosse du fusil qui avait servi à tuer ses parents. Les 3 corps avaient été découverts près de leur voiture, à 165 mètres d'une ferme, la Grand-Terre, dont le propriétaire, Gaston Dominici, est aussitôt soupçonné d'être responsable de ce triple meurtre. C'était le début d'une des plus grandes énigmes judiciaires du XXe siècle. Jamais les médias n'ont été aussi nombreux à s'intéresser aussi longtemps à un simple fait divers et à un homme dont 50 ans après son procès, on ignore encore s'il était coupable.
Digne vient de voir son activité décuplée par l'ouverture du procès Dominici. Autour de l'arme du crime se joue la tête d'un vieillard qui étonne par sa présence d'esprit, sa résistance et sa verdeur, mais qui n'en est peut-être pas moins un assassin. Après 2 années de silence, va-t-on enfin voir luire la vérité ?
Madeleine Sultan et Jean-Charles Degnaud, bonjour.
Bonjour.
Alors, 50 ans après cette archive, la vérité, on ne la connaît pas toujours, on ne la connaît toujours pas, pardon, malgré des années d'enquête, dont celle que vous avez faite pour un livre passionnant qui vient d'être publié aux éditions de l'Archipel. Mais avant d'en voir les conclusions avec vous, j'aimerais que vous nous rappeliez pour quelle raison cette affaire Dominici a autant passionné, autant marqué les gens, aussi bien à l'époque qu'aujourd'hui, parce qu'après tout, bien sûr, c'est un triple meurtre, particulièrement horrible, mais il y en a eu beaucoup d'autres, de pires encore, et qui n'ont pas fait autant de bruit. Jean-Charles Degnaud.
Alors, il faut se replacer dans le contexte. Nous sommes en 1952. C'est la guerre froide. Jacques Duclos a été arrêté. C'est l'histoire des pigeons dans le coffre de sa voiture. C'est Ridgway la peste. La guerre froide bat son plein. Il y a encore des séquelles de la résistance. Les paysages le paysage dans lequel se déroule le triple crime, c'est un paysage magnifique, dur. Il y a la Durance. Ça s'est passé la nuit. C'est dans la nuit du 4 au 5 août, comme vous venez de le dire, 1952. Et l'actualité n'est pas très chargée à l'époque. Il y a dans cette actualité, il y a l'histoire de Loubin, c'est de la grotte de la Pierre Saint-Martin. Là. Il y a aussi une histoire d'impôts avec Pinet, mais il n'y a pas grand-chose. Donc les journalistes descendent.
Se précipitent, et ils vont y rester pendant des mois.
Certains, dont comme Jacques Chaput, va y rester plus d'un an et demi.
Il y a peut-être aussi le fait que c'est resté pendant les 2 ans qu'a duré cette affaire jusqu'au procès, et même au-delà, c'est resté une énigme, Madeleine Sultan. C'est ça aussi. Un peu au fond l'affaire Grégory de l'époque.
L'affaire Dominici, c'est le polar idéal. Les personnages, le décor, les années 50, le goût de la vérité qui se dérobe au moment où on croit la saisir, tout est réuni pour en faire une affaire absolument romanesque. Et comme le mystère subsiste et subsistera à moins que les derniers survivants ne parlent, elle garde pour nous ce petit goût d'impossible.
Vous évoquez les personnages, il y a ce fameux clan Dominici. Il faut rappeler donc
que leur ferme est à deux pas de l'endroit où s'est produit le triple meurtre. Et tout de suite, on les soupçonne. Et d'abord, ce personnage extraordinaire qu'est Gaston Dominici.
Gaston Dominici, c'est le paysan des années 50. Il est rude, il est robuste, il est solide. Et il règne en maître sur son clan. Il a eu quelques difficultés avec Clovis, le fils aîné, qui n'a pas voulu reprendre la ferme et qui est devenu employé de la SNCF. Et donc, il a donné la ferme à Gustave, mais il en veut à Clovis parce que il a réussi à obtenir, lui, il était le bâtard. Il a, à force de travail, il a pu acheter cette terre. Il l'a fait fructifier. Cette terre, elle est ingrate. Il y a beaucoup de cailloux. Il y a aussi ce qu'on appelle les iscles, c'est-à-dire les parties alluvionnaires qui ne sont cultivables que quelques mois durant l'année. Donc c'est un personnage rude et il tient son clan de main de maître. Il y a également Marie, sa femme, qui est surnommée la sardine, qui est totalement soumise. À qui il a fait 9 enfants.
Alors pourquoi, Madeleine Sultan, le commissaire Sébeil, donc, est envoyé par la PJ de Marseille pour enquêter tout de suite, il arrive quand même 12 heures après que l'on ait découvert les cadavres, ils ne sont même plus là, on les a retirés, ça commence assez mal, et tout de suite il se focalise sur ces Dominici. Quelle est la raison pour laquelle il pense que c'est eux?
Eh bien, je pense qu'il ne s'est pas focalisé tout de suite sur les Dominici, parce que dans la ferme, les Dominici séchaient un pantalon, alors que ce n'était pas la coutume de laver le linge à la ferme. Le jeune inspecteur Girolami, qui avait découvert le pantalon, qui avait interrogé Gaston, etc., l'avait tiré par la manche et lui avait dit « Chef, il y a un pantalon fraîchement lavé de ce matin, là, qui pend ». Et Sébeil s'intéressait si peu aux Dominici qu'il a dit « Écoutez, Girolami, vous me cassez les pieds, on a retrouvé l'arme du crime dans la Durance, c'est elle qui va nous dire qui est l'assassin, allez vous occuper d'autre chose ». Et il a négligé ce qui aurait peut-être été une preuve.
Alors en tout cas, il va s'acharner bientôt sur eux, d'abord sur Gustave, le fils qui habite, lui, à la grand-terre, à la ferme, qui brusquement lui révèle, ça a duré des semaines et des mois même, qui brusquement lui dit « Bah oui, mais quand j'ai vu cette petite fille », enfin on lui dit, on n'a pas le temps d'entrer dans tous les détails de cette enquête, mais Gustave, qu'il va emprisonner pour non-assistance de personnes en danger, car c'est Gustave qui a découvert les corps, et notamment cette petite fille, en disant à son frère, mais son bras bougeait encore. Alors, on l'enferme, on essaye de faire craquer ce clan Dominici qui ne craque pas, et puis brusquement, en novembre 53, 15 mois après le crime quand même, c'est assez extraordinaire, eh bien, les deux frères, Gustave et Clovis, accuse le père. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que un ami de Gustave, Paul Maillet, avait reçu 2 confidences. La première, que la petite bougeait lorsqu'il l'a découverte, Gustave, et la deuxième, que Gustave lui avait dit « Oh là là, tu peux pas savoir, c'était horrible ce que j'ai entendu cette nuit-là. » Et Paul Maillet lui avait dit « Mais t'étais où ?» Elle dit « Là, au coin de la remise ». Ça voulait dire que Gustave avait assisté au moins à une partie du crime. Donc l'inspecteur Sébeil et le juge Périès ont attendu quelques mois pour être sûrs de pouvoir coincer les Dominici. Et ils ont commencé par interroger Gustave, qui a avoué, après quelques réticences, qu'il avait bien prononcé ses paroles. Et il a fini par dire « c'est mon père qui a fait le coup ». Clovis est arrivé, Clovis a renchéri, et après, ça a été Gaston qui lui a tenu le coup. Et il a avoué simplement, au bout de 11 heures d'interrogatoire, auprès d'un gendarme de Digne, Guérineau, qui parlait en patois avec lui, et c'est en patois qu'il a avoué.
Et il a avoué, donc, ce Gaston lui-même avoue son crime, aussi devant le commissaire Sébeil, en lui donnant d'ailleurs les raisons même pour lesquelles il aurait commis ce crime, après avoir dit, après qu'il ait, disait Gaston, séduit Lady Drummond dans la nuit du 4 au 5 août 1952.
T'avais vu l'anglaise? J'étais sous le mûrier, je la regardais se déshabiller devant moi. Alors je me suis approché, mais elle n'a pas été effrayée du tout. Je lui ai dit quelques mots à l'oreille, elle m'a dit qu'elle était d'accord. Alors, pour hésiter, j'ai envoyé la main au truc, elle s'est couchée, puis je l'ai sauté. Elle en demandait, hein. Elle aimait ça. Non, on a fait du bruit, puis le mari s'est levé, s'est jeté sur moi. Alors comme je tenais la carabine, il a pris la carabine par le bout, le coup est parti. Alors, le bonhomme, il a foutu le camp, j'ai tiré, ils criaient tous. J'ai bien été obligé de faire taire.
Le signe.
Non.
Signe et tu auras la paix.
Je pourrais conserver la grand-terre.
Oui, tu auras tout.
Bon. Comme c'est moi le plus vieux, c'est à moi de me sacrifier. Je signe, mais je suis innocent.
Alors vous avez reconnu, je suppose, Madeleine Sultan, évidemment, la voix de Jean Gabin dans le rôle de Dominici dans un excellent film de Claude Bernard Robert en 1973, donc l'affaire Dominici. Et ses aveux, c'est quand même assez extraordinaire. À 76 ans, voilà que Gaston Dominici dit qu'il aurait séduit Lady Drummond et que c'est ça qui aurait provoqué ce triple meurtre.
Ah bah oui, il a dit n'importe quoi et tout le monde en était bien conscient, au point que lors de l'accusation, le procureur général lui a dit d'arrêter de raconter qu'il avait séduit Lady Drummond. Ses aveux, il a avoué 9 fois. Il a avoué 9 fois, il s'est rétracté 5 fois. Et ses aveux sur... c'était une histoire de séduction et Drummond s'est fâché, très farfelu. Il ne les a pas fait à Sébeil parce qu'il voulait plus parler à Sébeil. Il les a fait au commissaire Prudhomme. En fait, il avoue à Guérineau en patois, et oui, voilà.
Oui, mais ses aveux, on dit souvent qu'au fond, il aurait avoué son crime pour couvrir ses enfants.
Tout à fait, mais alors un enquêteur sérieux peut se demander s'il a avoué pour couvrir le crime de quelqu'un des siens, ou de plusieurs des siens. Il a réussi son coup, puisqu'il est condamné. Alors, pourquoi, à ce moment-là, commence-t-il à accuser, donc il a réussi, donc il ne devrait pas dire « je suis innocent, je couvre l'honneur de la famille ». Donc pourquoi, à ce moment-là, accuse-t-il ses propres fils et son petit-fils et s'arrête-t-il au milieu du guet?
Alors on s'intéresse à la personnalité même des Dominici, notamment de Gaston. Mais on s'est intéressé aussi à l'époque à la personnalité de la victime, et qui était Sœur Drummond. C'était quand même pas n'importe qui, c'est peut-être ça aussi qui a fait de cette affaire une affaire qui a pris une ampleur internationale. Il est donc anglais, et c'est un grand scientifique anglais, un grand diététicien connu dans le monde entier. Et on s'est demandé s'il n'y avait pas là-dedans aussi quelque chose qui était en rapport avec l'ancienne profession, je crois qu'il était à la retraite, de Drummond.
Alors, Drummond dirigeait les usines Boots, qui étaient des usines pharmaceutiques. Il faut dire que Drummond était un pionnier des vitamines, qui travaillait au Cancer Hospital, et c'est lui qui a réussi à trouver la façon dont on pouvait synthétiser ces vitamines et les extraire des aliments.
Mais on dit qu'il était aussi des services secrets anglais, et qu'il y avait un rapport avec ses activités pendant la guerre, et notamment qu'il s'était intéressé, il était venu à la Grande-Terre, enfin en tout cas dans les Alpes-de-Provence, pour voir ce qu'étaient devenus les parachutages qui avaient été faits d'Angleterre sur la résistance locale de l'époque, qui était très importante. Et on s'est dit peut-être qu'au fond, il voulait en savoir trop et qu'il aurait été tué pour ça.
Ah ben, la piste de la résistance et la piste de la résistance croisée avec celle de l'intelligence service est très séduisante. Nous l'avons évidemment explorée et ça donne rien. Mais Sébeil s'en était inquiété parce que Sébeil était désespéré de ne rien trouver. Et ça n'aboutissait à rien. On a dit n'importe quoi.
Pour la piste de la résistance, un petit détail, c'est que les parachutages d'argent, il y en a presque pas eu. Et jamais, s'il y avait de l'argent, les Dominici auraient été riches et ils étaient toujours pauvres.
En tout cas, le commissaire Sébeil lui est persuadé de la culpabilité de Dominici, dont le procès commence à Digne le 17 novembre 1954 devant des centaines de journalistes, dont le plus célèbre chroniqueur judiciaire de notre maison, qui s'appelait à l'époque la RTF.
Ici Frédéric Potcher, qui vous parle du palais de justice de Digne. Le procès du vieux Gaston Dominici a commencé à 9h comme prévu. Grâce à la fermeté et aussi à la compréhension du président du tribunal civil, M. Oran, la foule qui se pressait très dense a pu être contenue et la plupart des journalistes et photographes qui se pressaient à l'entrée ont obtenu satisfaction.
Veuillez vous asseoir.
Bien. Faites entrer l'accusé.
Alors c'était l'ouverture du procès de Gaston Dominici le 17 novembre 1954, il y a 50 ans, un procès très médiatisé, Jean-Charles Deniau. Il y avait énormément de journalistes.
Il y avait des journalistes venus du monde entier, il y avait des Américains, des Japonais, toute la presse nationale, régionale était là.
La première fois d'ailleurs qu'un procès intéresse non seulement des journalistes français, mais vraiment le monde entier, on s'y intéressait dans le monde entier.
Bien sûr, il faut savoir qu'en Allemagne par exemple, dès le 5 août, il y a eu des articles dans les journaux, et entre le 5 août et le mois de novembre 1952, il y avait eu 150 articles. Et donc, au moment du procès en 1954, tous les journalistes sont là. Et puis, il y a une grande nouveauté, c'est la Bellino. On peut désormais envoyer des photographies par le téléphone. Et il y a même un car, le car qui généralement couvre le Tour de France, a été envoyé pour ajouter des lignes téléphoniques. C'est la première grande affaire vraiment médiatisée.
Et puis comme toujours dans ces cas-là aussi, de grands écrivains, hein, vous les citez, Giono, Mauriac, André Mauroy, Simenon, Armand Salacrou qui a eu cette formule extraordinaire, voyant Dominici à la barre, « La présence de ce vieillard si simple me fascine. » Tout dans le vieux Dominici est juste, sa dignité, son calme, son élégance. Il est paysan comme on est roi. Bien sûr, dit Salacrou, il y a un coupable, mais s'il est prouvé que ce soit ce vieil homme, alors je n'arriverai plus jamais, je ne croirai plus jamais à la pureté d'un visage. Il fascinait les gens.
Fascinait les gens parce qu'il avait beaucoup d'humour, beaucoup d'intelligence. Il faisait semblant de pas comprendre quand ça l'arrangeait, en parlant patois. Mais d'ailleurs, durant tout ce procès, les Dominici vont se déchirer, s'invectiver, se renvoyer la balle en permanence. C'est un vrai drame cornélien.
Ah oui, mais en face, il est confronté à ses enfants qui l'accablent. Alors, je crois que Gustave revient en arrière, Clovis persiste, c'est mon père. Ça devait être, c'était vraiment cornélien.
C'était vraiment extraordinaire et c'était en fait Gaston qui menait la danse. Quand il en a eu assez d'entendre Gustave mentir, parce que Gustave n'avait qu'un but, c'est essayer de faire croire que c'était Clovis le premier qui avait accusé le père pour se dédouaner.
Il avait la trouille de son père.
Une trouille terrible de son père. Il avait dit au juge Périès, juste avant le procès, est-ce que vous pouvez vous arranger pour que mon père ne sache pas que c'est moi qui l'ai dénoncé?
Ouais. C'est terrible, hein, cette affaire. Vous voulez dire quelque chose aussi, Madeleine Sultan, là-dessus? Sur ce procès, le déroulement du procès. Par exemple, à un moment donné, il y a une scène extraordinaire. Gustave sème le doute. C'est peut-être de là que vient tous les fantasmes sur le procès de Dominici. Il dit à son fils, il se tourne, Gaston, se tourne vers son fils Gustave et lui dit « Avec qui étais-tu dans la luzerne ce soir-là » Sous-entendu, il y avait d'autres personnes dont il n'avait encore jamais parlé.
Absolument, j'allais vous en parler. C'est une réplique étonnante que Madeleine Jacob, qui était journaliste à Libération à l'époque, a relevée. Au moment où Gustave dit, et son père aurait dû s'en contenter, « Mon père est innocent », il ne pouvait plus dire que ça, Gaston se lève fou furieux et lui dit « Mais c'est pas ça qu'il faut dire, imbécile. Dis avec qui tu étais dans la luzerne. »
Autrement dit, il y avait une tierce, une quadruple personne, si je puis dire. Ouais, ils étaient plusieurs.
En tout cas, Gaston sème le doute dès ce moment-là.
Et c'est une attitude qu'il va donc garder jusqu'à la fin de son procès, le 28 novembre 1954, il y a 50 ans et un jour.
Le procès Dominici en arrive à la fin. On a, dans la cour du tribunal, reconstitué autour d'une voiture Hillman identique à celle des Drummond, certaines phases de la scène tragique. Discussion autour des portières, autour du pare-choc. Rien de marquant n'est sorti de ce nouvel acte de l'affaire qui hante tous les esprits. C'est maintenant l'heure du verdict.
Monsieur, la cour.
Garde, faites entrer l'accusé. La réponse du jury et de la cour aux 7 questions posées a été oui à la majorité. Il n'y a pas de circonstances atténuantes. En vertu de ce jugement, Gaston Dominici est condamné à mort. Tout condamné à mort aura la tête tranchée.
C'était donc le verdict à l'issue du procès de Dominici, condamné à mort à 77 ans, Jean-Charles Deniau. C'est quand même assez rare.
C'est rare. Ça même. Justement, c'est rare parce que jusqu'au bout, Gaston Dominici a pensé qu'il ne serait pas condamné à mort. Il s'attendait à tout sauf à ça. Et il n'avait pas vraiment réalisé. Quand il a réalisé ce qu'il attendait, c'est-à-dire la guillotine, c'est là qu'il a dit « je vais parler maintenant, je vais parler ». Et c'est là que le doute s'est insinué dans la conscience française, jusqu'à aujourd'hui. Le doute, l'erreur judiciaire, est venue de là, quand il a dit « maintenant je vais parler ». Et il va laisser passer quelque temps, et à ses avocats, il va dire « il y avait quelqu'un ». d'autre qui a fait le coup.
Le doute est tel d'ailleurs qu'il y a eu, alors d'abord premièrement, il n'est pas exécuté tout de suite, et puis finalement on sait, il va être, d'abord sa peine va être commuée par le président de la République de l'époque, René Coty, plus tard il sera libéré, mais tout de suite dès 55 on fait une autre enquête, peut-être parce qu'on n'avait pas confiance au fond dans le travail du commissaire Sebeil, Madeleine Sultan.
Alors dès décembre 54, il y a deux policiers, les broussards de l'époque, Chenevier et Gillard, qui vont voir un petit peu s'il faut continuer l'enquête, et voilà. Chenevier et Gillard sont assez amis avec les avocats de Gaston. Donc ils vont réécouter Gaston au Baumettes, et Gaston redit « Ce n'est pas moi, c'est Gustave et mon petit-fils Roger Perrin ». Et à ce moment-là, il demande une commission rogatoire au jeune juge Carias qui remplace Périès. Et les magistrats des Basses-Alpes seront tellement contrariés qu'on revienne sur une chose jugée. Et en plus des Parisiens, des frimeurs, des messieurs, copains avec les journalistes, qu'ils vont mettre 9 mois à leur délivrer une commission rogatoire. C'est-à-dire qu'on a coupé l'herbe sous le pied de la contre-enquête, et Chenevier et Gillard n'ont abouti à rien, et il y a eu un non-lieu, et on a refermé le dossier.
Et plus personne ne croit vraiment à la culpabilité d'ailleurs de Gaston, au point, je le disais à l'instant, que René Coty, le président de la République, va commuer sa peine en détention à perpétuité, qu'en 1960, le général de Gaulle fait donc libérer Gaston Dominici de la prison des Baumettes, démontrant du même coup que Gaston Dominici pouvait être innocent, comme l'affirmait d'ailleurs, comme l'a toujours affirmé, vous le citiez à l'instant, son avocat, Maître Polac, 5 ans avant sa mort en 1972.
L'extraordinaire de ce procès, c'est que cet homme a été condamné sans preuve, sur des mots, rien que des mots. Mon père m'a dit, mon frère m'a dit, mon père a dit à mon frère, et c'est ainsi qu'une condamnation est intervenue. Frappant un homme dont j'ai la conviction qu'il était innocent, il a dû être certainement très troublé, monsieur le garde des Sceaux de l'époque, qui 15 jours après ordonnait une nouvelle enquête. Il a dû être profondément troublé, monsieur le président Coty, qui en 1957 commuait en réclusion criminelle la peine de mort qui a été prononcée, et aussi le général de Gaulle qui en 1960 prononçait la libération de Gaston Dominici. Personne n'a voulu la condamnation d'un innocent. Personne dans ce procès n'a trahi les devoirs de sa charge. Et de pareilles choses, cependant, arrivent. C'est une leçon qu'il faut méditer.
Et c'était Maître Polac, en 1972, l'avocat de Gaston Dominici, alors que celui-ci, Gaston, était mort déjà depuis 6 ans, il est mort en 1965. Alors si il est innocent, qui donc est coupable? C'est une question que l'on se pose encore aujourd'hui, en reprenant donc de vieilles hypothèses qu'on a déjà en partie évoquées avec vous, comme celle d'un livre dont on a fait un film récent de Pierre Boutron sur TF1, et avec Michel Serrault dans le rôle de Gaston Dominici, et qui affirmait ce livre comme ce film, au fond, que les coupables de la mort des Drummond, c'était les services secrets, Madeleine Sultan.
Alors, nous avons remonté évidemment la piste des services secrets, parce que...
Faut rappeler le lien qu'il peut y avoir. Hein. On a évoqué déjà la résistance. Bon, ça c'est une hypothèse qui ne tient pas debout, mais il y en a d'autres
hypothèses. Piste très séduisante. Il se trouve qu'un détenu allemand, un certain Bartkowski, en 1952, avait fait des aveux pressé par la police allemande qui était allée l'interroger alors qu'il était détenu déjà à la prison de Ludwigsburg. Et il dit qu'il a commis une agression, qu'il a été le chauffeur d'une agression à main armée. Il situe l'agression en Suisse, puis les Suisses ne trouvent rien, puis ça se situe en France, etc. Donc, ce témoignage que le commissaire Gillard, venu l'entendre à plusieurs reprises dès 1952, a été écarté comme provenant d'un détenu mythomane qui voulait changer de prison et se faire remarquer.
L'idée en substance, c'était au fond que Gaston, que Drummond aurait, pendant la guerre, aurait enquêté, aurait été recherché des savants allemands à la fin de la guerre, et que empiétant sur les territoires soviétiques, les services secrets soviétiques s'en seraient débarrassés. Il y a aussi l'idée qu'il faisait une enquête sur une usine qui était à côté de l'URSS, de l'endroit où il a été assassiné, parler, et il faisait une enquête là-dessus. C'est ça, au fond, Jean-Charles Deniau.
Oui, alors l'usine de Saint-Auban, ça ne tient pas debout. L'usine de Saint-Auban fabriquait du PVC. Elle avait été créée en 1914 pour le gaz moutarde. Il n'y avait rien de secret dans cette usine. Il n'y a jamais eu d'espionnage autour de cette usine. Quant à Barkovski, le KGB ne travaille pas comme ça. Il n'envoie pas trois commandos chercher une carabine rafistolée dans une grange pour tuer les gens. Ce ne sont pas les méthodes du KGB.
Surtout que ce Barkovski, alors ce qui est extraordinaire, c'est que dans votre livre, comme dans un documentaire que vous avez fait, vous avez été le voir et vous êtes aperçu, vous l'avez trouvé d'abord, ce qui n'était pas évident, en Allemagne, où il est SDF, et surtout vous vous êtes rendu compte que c'était un mythomane.
On l'a rencontré, on l'a retrouvé dans une petite ville de la Ruhr où il est SDF, dans une gare, et ce Barkovski qui est tout à fait propre sur lui, correct, qui ne boit pas, qui est un monsieur de 78 ans, dès la première rencontre a commencé nous parler de la mort de Lady Di sous le pont de l'Alma en nous disant « je suis passé juste après dans la voiture blanche ».
Qu'il invente,
et nous avons compris que c'était un affabulateur.
Alors, si c'est pas lui, si c'est pas une affaire de service secret, vous vous arrêtez au fond à l'hypothèse « une affaire de famille », c'est le sous-titre de votre livre, Dominici, « c'était une affaire de famille ». Point d'exclamation, pas point d'interrogation.
C'est une affaire, pour nous, c'est une affaire. Affaire de famille. C'est une affaire de famille parce que les Dominici n'ont curieusement jamais accusé quelqu'un d'autre de la famille. Et les avocats des Dominici n'ont jamais mis en cause quelqu'un d'autre de la famille. Maître Polak, Maître Charrier et les autres avocats, jusqu'à la fin, ont laissé entendre que si c'était pas Gaston, c'était Gustave et Zézé Perrin. Et nous avons rencontré récemment un vieil avocat de Digne qui nous a dit dans une conversation lors d'un débat. Nous, avocats de la partie, il était avocat de la partie civile, il défendait Madame Villebrame, les Drummond, on nous a dit, moi, je pense que c'était Roger Perrin et que la carabine, c'était
lui,
le petit-fils.
Merci Madeleine Sultan, merci Jean-Charles Deniau. Je rappelle donc, et pour en savoir plus, on n'a pas eu le temps de tout développer en 26 minutes, que vous êtes les auteurs d'un livre passionnant, Dominici, c'était une affaire de famille, qui vient de paraître aux éditions de l'Archipel. On a pu entendre aussi des extraits d'un documentaire dont vous êtes les auteurs, l'affaire Dominici, complément d'enquête, un documentaire dont vous êtes les auteurs, donc, et qui a été diffusé en novembre 2003 sur la chaîne Odyssée. Vous pouvez, on a également vu, on a pu entendre l'affaire Dominici de Claude Bernard Aubert avec Jean Gabin et puis l'affaire Dominici de Pierre Boutron avec Michel Serrault dans le rôle de Gaston Dominici. Deux films disponibles en DVD chez TF1 Vidéo. C'était 2000 ans.